Chapitre 21. Le serpent d'airain. Israël dégoûté de la manne. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. » Et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Versets 4 et 5. Hélas, c'est toujours la même triste histoire, les murmures du désert. On était d'accord de s'enfuir hors d'Égypte lorsque les terribles jugements de Dieu tombaient sur ce pays. Mais maintenant, les plaies sont oubliées et l'on ne se souvient que de la soi-disant abondante nourriture qu'on y mangeait. Notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Quel langage pour désigner le pain du ciel! L'Éternel avait pris soin d'eux dans le désert comme une mère environ 40 ans. Acte 13, verset 18. Tant de grâce aurait dû produire en eux un esprit de soumission humble et reconnaissante. Mais non, voilà de nouveau les plaintes et la révolte. Cependant, ils durent promptement goûter les fruits amers de leur esprit de murmure. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et il mordait le peuple, et de ceux d'Israël il mourut un grand peuple. Verset 6. Le serpent, Satan, était la source de leur mécontentement. Leur état après qu'ils auraient été mordus par les serpents était bien propre à leur révéler le vrai caractère de leur mécontentement. Si le peuple de Dieu ne veut pas marcher joyeux et content avec Dieu, il apprendra à connaître la puissance du serpent. Puissance terrible, hélas. De quelque manière qu'on en fasse l'expérience. La morsure du serpent amena Israël à sentir son péché. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. » Verset 7. C'est alors, pour la grâce divine, le moment de se déployer. Chaque besoin de l'homme est une occasion pour le déploiement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dès le moment où Israël pouvait dire « Nous avons péché », la grâce pouvait se répandre, Dieu pouvait agir. Et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. » Verset 8. L'image même de ce qui avait fait le mal devenait le moyen par lequel la grâce divine pouvait couler librement sur les pécheurs. Type admirable de Christ sur la croix. L'amour de Dieu. C'est une erreur trop fréquente d'envisager le Seigneur Jésus plutôt comme celui qui détourne le courroux de Dieu que comme le canal de son amour. Qu'il ait enduré la colère de Dieu contre le péché, c'est bien vrai. Mais il y a plus que cela. S'il est descendu sur cette terre pour mourir sur la croix, c'est afin d'ouvrir les sources éternelles de l'amour de Dieu au cœur des pauvres pécheurs. Rien ne peut amener un pécheur à un état de vrai bonheur et de vraie sainteté si ce n'est une confiance inébranlable en l'amour de Dieu lui-même. Le premier effort du serpent, en attaquant l'homme innocent, fut de chercher à ébranler sa confiance dans l'amour de Dieu afin de le rendre mécontent de la position où Dieu l'avait placé. La chute de l'homme fut le résultat immédiat de son doute à l'égard de l'amour de Dieu. Le salut de l'homme doit donc découler de sa foi dans cet amour. Le Fils de Dieu lui-même a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Or, c'est en rapport immédiat avec ce qui précède que notre Seigneur nous enseigne qu'il était l'antitype du serpent d'airain. Comme Fils de Dieu envoyé du Père, il était le don et l'expression de l'amour de Dieu pour un monde qui périssait. Mais alors, il devait être élevé sur la croix en propitiation pour le péché, puisque l'amour divin ne pouvait pas répondre autrement aux exigences de la justice divine. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. Toute la famille humaine a senti la morsure mortelle du serpent. Mais le Dieu de toute grâce a établi un remède sublime en celui qui fut élevé sur le bois de la croix. Et maintenant, il appelle tous ceux qui se sentent mordus à regarder à Jésus pour avoir la vie et la paix. Christ est le don même de Dieu, par lequel un salut parfait et gratuit est proclamé aux pécheurs. Ce salut est en harmonie avec tous les attributs du caractère divin et avec tous les droits de Dieu. Satan ne peut pas soulever une seule question à cet égard. La résurrection est la garantie divine de l'œuvre de la croix, de sorte que le croyant peut jouir de la plus parfaite tranquillité quant au péché. Dieu prend tout son plaisir en Jésus, et comme il envisage tous les croyants en lui, il prend aussi tout son plaisir en eux. La foi qui saisit le salut. Or, la foi est l'instrument par lequel le pécheur saisit le salut de Christ. L'Israélite mordu par le serpent devait simplement regarder pour vivre. Regarder non pas à lui-même, ni à ses blessures, ni à ceux qui l'entouraient, mais directement et exclusivement au remède de Dieu. S'il refusait ou négligeait d'y regarder, il n'y avait autre chose pour lui que la mort. Il devait fixer attentivement ses regards sur le remède de Dieu, élevé de telle façon que tous puissent le voir. Quiconque sera mordu et le regardera, vivra. C'était l'unique remède prescrit par Dieu. Ainsi en est-il maintenant. Le pécheur est appelé à fixer son regard exclusivement sur Jésus, dont la mort et la résurrection constituent le fondement éternel de toute paix et de toute espérance. Dieu certifie que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Ceci devrait satisfaire pleinement tout cœur inquiet et toute conscience travaillée. Dieu est satisfait. Nous devons donc l'être aussi. Soulever des doutes, c'est nier la parole de Dieu. Quand le pécheur peut jeter un regard de foi sur Jésus, ses péchés disparaissent. Le sang de Jésus nettoie chaque tâche, efface toute souillure, et cela à la lumière même de la sainteté de Dieu, où aucune ombre de péché ne peut être tolérée. Remarquons le caractère individuel du regard porté sur le serpent par l'Israélite mordu. Chacun devait regarder pour soi. Nul ne pouvait être sauvé par le regard de l'autre. La vie était dans un lien personnel, dans un contact direct et individuel avec le remède divin. Ainsi en est-il encore aujourd'hui. Il nous faut avoir affaire à Jésus pour nous-mêmes. L'Église ne peut pas nous sauver, ni aucun ordre de prêtre ou de ministre. Sans lien personnel avec le Sauveur, il n'y a pas de vie. Lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Tel était l'ordre de Dieu alors, telle est encore son ordonnance de nos jours, car comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La foi est une chose individuelle. La repentance est une chose individuelle. Le salut est une chose individuelle. Et de là, ils vinrent à Béère. Et de là, ils vinrent à Béère. C'est là le puits au sujet duquel l'Éternel dit à Moïse : Assemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique : Monte puits, chantez-lui. Puits que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple avec le législateur ont creusé avec leurs bâtons. Versets 16 à 18. Ce passage, présenté dans un pareil moment, et en rapport avec ce qui précède, est bien remarquable. Les murmures ne se font plus entendre, le peuple s'approche des frontières de la terre promise, les effets de la morsure du serpent ont disparu, et maintenant, sans aucune verge, sans avoir frappé quoi que ce soit, le peuple est pourvu de rafraîchissement. Quoique les Moabites et les Ammonites soient autour d'eux, quoique la puissance de Sion leur barre le chemin, Dieu peut ouvrir un puits à son peuple et lui donner un chant de triomphe en dépit de tout.